Bienvenue sur Emotion Side Story, le podcast qui vous parle des classiques hollywoodiens au prisme des émotions. Le film dont nous allons parler cette semaine est The Apartment, La garçonnière en français, un film américain de 1960 réalisé par Billy Wilder et dans lequel nous retrouvons les immenses Jack Lemmon, Shirley MacLaine et Fred McMurray. Un homme ordinaire, Sissy Baxter, employé dans une compagnie d'assurance, prête son appartement à ses supérieurs pour leur rendez-vous galant. Il espère ainsi obtenir la promotion qu'il souhaite depuis longtemps. Mais les choses vont se compliquer quand il comprend que Fran, la collègue dont il est amoureux, fait partie des conquêtes que le directeur amène dans son logement. The Apartment est un film où il est question de raquettes de tennis, de gin rummy et de renvoi d'ascenseur.
I'm sorry, Mr. Sheldrake, I'm full up. You'll have to take the next elevator.
Au sommaire de cette semaine, d'abord, nous allons parler de ce géant d'Hollywood qu'est Billy Wilder et aborder ses obsessions, son parcours, qui le place dans la droite ligne de son mentor, Ernst Lubitsch. Ensuite, je vais essayer de vous dire pourquoi The Apartment se situe au-dessus du panier filmographique déjà de très très haut niveau de Billy Wilder. Pourquoi c'est tout simplement un chef-d'œuvre en fait. The Apartment est un miracle d'écriture, d'interprétation et de mise en scène. Bien évidemment, comme pour chaque épisode, je vais aussi vous raconter à quelle émotion me renvoie ce film. Et enfin, je vais tenter de vous montrer comment un film comme The Apartment peut donner un cours sur l'intégrité sans pour autant être donneur de leçons. Alors, prêt pour de l'émotion et du cinéma ? C'est parti.
Ingredient number one, a very warm, very wonderful story about a boy, a girl, and a very special kind of problem.
Billy Wilder, un géant d'Hollywood. Billy Wilder est né en 1906 dans ce qui était alors l'Empire austro-hongrois. Il fait partie de cette vague d'artistes européens et juifs qui ont fui le totalitarisme nazi au milieu des années 30. Il se rend d'abord en France, puis aux États-Unis. Il est important de rappeler qu'avant de devenir réalisateur, Billy Wilder écrit. L'écriture est vraiment son moteur, son ADN. Il écrit d'abord en tant que journaliste, puis en tant que scénariste. Aux États-Unis, il va commencer par écrire des scripts pour les autres et entame une fructueuse collaboration avec Charles Brackett, l'un de ses co-scénaristes qui a joué un rôle majeur dans sa carrière. Les deux compères vont notamment travailler pour Lubitsch et écrire des chefs-d'œuvre de la comédie américaine comme Ninotchka ou La huitième femme de Barbe Bleue.
How are things in Moscow?
Very good. The last mass trials were a great success. There are going to be fewer but better Russians.
Billy Wilder va ensuite tout faire pour réaliser les films dont il écrit les scripts. Mais ce n'est pas chose aisée dans le système hollywoodien de l'époque où la division du travail est très réglementée. Il finit par réussir et va réaliser ses premiers films américains, des œuvres très différentes, mais qui posent la base de son style et de sa philosophie de vie. À travers ses films, Billy Wilder pose un regard qui se veut lucide sur l'humanité, ce qui suppose aussi une certaine noirceur et la volonté de montrer aussi les aspects sordides et scabreux qui nous constituent. Mais ce n'est pas un regard en surplomb ou moralisateur. C'est plutôt comme s'il nous disait à nous, spectateurs, « Voilà, regardez qui nous sommes ». Et la comédie est l'un des moyens les plus efficaces à sa disposition pour témoigner de cette vision du monde. J'aimerais partager avec vous une citation qui illustre bien sa démarche en écriture. Je cite « Je n'étais pas le gars qui écrit des révélations profondes ou une pièce comme « En attendant Godot ». Ce qui m'intéressait, c'était d'élever le goût de l'individu moyen, l'élever juste un petit peu. » Ce qui rend Billy Wilder unique. Pour moi, ce qui le rend unique, c'est l'absolue variété de ses films. C'est quelqu'un qui ne se refuse rien. Plutôt que de s'inscrire dans un registre comique ou dramatique, il voit avant tout un sujet à mettre en scène.
I killed him. I killed him for money. And for a woman. And I didn't get the money and I didn't get the woman.
Billy Wilder a su se renouveler et même révolutionner différents genres. Alors certes, il est surtout connu pour ses comédies comme Some Like It Hot, Certains l'aiment chaud en français, ou The Apartment, justement. Mais ce qui est remarquable, c'est que dans le registre dramatique, il a excellé et même révolutionné des genres, comme le film noir, avec Double Indemnity, Assurance sur la mort en français, film de 1944, qui est tout simplement un chef-d'œuvre et un marqueur dans le genre noir. On ne peut pas ne pas évoquer Sunset Boulevard, Boulevard du Crépuscule en français, un film de 1950, autre chef-d'œuvre sur le déclin d'Hollywood, à une époque où Hollywood n'a jamais été aussi puissant. C'est presque un film visionnaire. Ou encore Le Gouffre aux Chimères, magnifique titre français de Ace in the Hole, un film de 1951 sur le journalisme, très âpre, très sombre, et qui se trouve être l'œuvre préférée de Wyder. La mécanique du duo scénaristique. Ce qui caractérise aussi Billy Wyder, c'est que dans l'écriture, il privilégie le travail d'équipe, et notamment le schéma du duo. Alors que dans la mise en scène, Wyder travaille seul, pour le scénario, il s'entoure le plus souvent de complices. Je vous ai parlé de Charles Brackett, qui a été son co-scénariste dans la première partie de sa carrière. On peut en citer un autre, très connu, I.A.L. Diamond, avec qui il a notamment écrit The Apartment. Billy Wyder ne croit pas en l'exercice solitaire de l'écriture. Il croit à l'intelligence collective. D'ailleurs, il y a cette anecdote très connue où dans le bureau qu'il partage avec I.A.L. Diamond se trouve cette pancarte qu'il regarde quand ils sont en panne d'inspiration. Qu'aurait fait Lubitsch ? Lubitsch est aux yeux de Billy Wyder le modèle, le mentor indépassable. Même s'ils ont des styles très différents, Billy Wyder peut être considéré comme un héritier de Lubitsch. Il l'a connu, l'a admiré et travaillé avec lui pour des scénarios. Comme lui, c'est un enfant de la Paramount et comme lui, il aime révéler les pulsions bonnes et mauvaises de l'humanité, mais de manière détournée, piquante et souvent malicieuse. De plus, Wyder est aussi l'un des meilleurs connaisseurs de Lubitsch. Il a d'ailleurs la meilleure définition de la fameuse Lubitsch Touch.
Yes.
If you could explain what the Lubitsch touch is.
Lubitsch.
Lubitsch touch.
Lubitsch
was.
Touch, yes. Yeah, well, yes. That's if I could explain it, you know, this is like if I knew the formula, you know, I would patent it, but nobody quite knows how to arrive at it.
Voici comment Billy Wyder définit la Lubitsch touch. Il pose un problème à des étudiants en cinéma. Nous avons un roi, une reine et un soldat. La reine a une liaison avec le soldat et le roi va les surprendre. Comment rendre cette situation intéressante cinématographiquement ? Les étudiants réfléchissent et reviennent avec de bonnes solutions. Des solutions amusantes, parfois trop explicites ou trop cérébrales. Mais personne ne peut arriver à la cheville de la solution de Lubitsch. Celle-ci se trouve dans le film The Merry Widow. La scène s'ouvre sur la chambre à coucher du roi et de la reine. Le roi sort de la chambre. Dès que le roi s'en va, Maurice Chevalier, qui joue un garde, entre dans la chambre. Il ferme la porte derrière lui. La caméra reste à l'extérieur. Pendant ce temps, en descendant l'escalier, le roi s'aperçoit qu'il a oublié sa ceinture. Il fait demi-tour et retourne dans la chambre. La caméra est toujours à l'extérieur. On a peur pour les deux amants qui peuvent se faire surprendre. Mais étonnamment, on voit le roi ressortir, calme, avec sa ceinture et son épée. Il reprend son chemin. Mais quand il essaie de remettre sa ceinture, il s'aperçoit qu'elle est trop petite. Il regarde son épée de plus près et comprend que ce n'est pas la sienne. Voilà. Pour Wyder, c'est la parfaite illustration de la Lubitsch Touch. Cette façon virtuose de dire les choses sans les dire, de passer par le jeu, par l'espièglerie, pour exposer la situation. Pourquoi ce film ?
Night like this, it sort of spooks you to walk into an empty apartment.
I said I had no family. I didn't say I had an empty apartment.
Ce film montre les tribulations d'un homme ordinaire, Sissy Baxter, interprété par Jack Lemmon. Il est employé dans une compagnie d'assurance, compagnie où il tente péniblement de gravir les échelons. Mais Sissy Baxter a un atout, son appartement, qui peut servir de garçonnière à tous ses supérieurs libidineux qui ont besoin d'un pied-à-terre discret pour emmener leur maîtresse. Mais il se trouve que Sissy Baxter tombe amoureux de Fran, une des liftières de la société jouée par Shirley MacLaine. Fran, qui est elle-même objet du désir du directeur Jeff Sheldrake, interprété par Fred McMurray. Monsieur Sheldrake, qui a bien évidemment sollicité Sissy Baxter pour utiliser son appartement. Comment Sissy Baxter va résoudre ce problème, ou ce dilemme? Voilà le sujet du film.
You know, you see a girl a couple of times a week just for laughs, and right away, they think you're going to divorce your wife. I ask you, is that fair?
No, sir, it's very unfair, especially to your wife.
Yeah.
Tourné juste après Some Like It Hot, certains l'aiment chaud, The Apartment est un bijou qui sait conjuguer légèreté et noirceur avec une justesse inégalée. C'est un film où l'héroïne peut faire une partie de Gene Rami après une tentative de suicide. Dans cette œuvre, on nous brosse un portrait réaliste des hommes qui peuvent être généreux à l'image du voisin, le docteur Dreyfus, ou mesquins à l'image des cadres libidineux de la société qui utilisent l'appartement de Sissy Baxter. The Apartment, c'est l'histoire d'un homme qui, grâce à l'amour, va sortir de toutes ses compromissions. Mais le tout est raconté sans les violons, sans les bons sentiments. C'est un film qui parle d'intégrité. Ce que le docteur Dreyfus appelle être un mensch. The Apartment est aussi remarquable pour son scénario. Un scénario en or, fait de réitérations, de clins d'œil, de gimmicks. Il va s'installer un jeu entre les personnages qui s'approprient ou se font extorquer leur propre langage. Comme par exemple, quand Sissy Baxter emprunte le vocabulaire d'un des cadres quand il pense avoir sa promotion, en ajoutant le terme « wise » à tout bout de champ.
We were discussing our department, manpower-wise, promotion-wise. I told him what a bright boy you are.
But I am in the top 10, efficiency-wise, and this may be the day, promotion-wise.
You're beginning to sound like Mr. Kirkaby already.
À quelle émotion me renvoie ce film? Ce film renvoie pour moi à la consolation. La définition du Robert est la suivante. Je cite, « Soulagement apporté à la douleur, à la peine de quelqu'un ». Fin de citation. En effet, la consolation, c'est l'écoute du chagrin. Consoler, c'est soulager une peine sans pouvoir changer le réel. En ce sens, même si la consolation n'apporte pas de solution, elle est essentielle. Le philosophe André Comte-Sponville définit la consolation comme, je cite, « toujours nécessaire et toujours insuffisante ». Insuffisante, car elle ne peut faire disparaître la perte, la maladie ou la mort, mais nécessaire, car elle nous délivre de la souffrance de vivre seul son chagrin. Et c'est ce que fait Sissy Baxter pour Fran. Suite à sa tentative de suicide, il va tout simplement être là, à ses côtés. Il va tenter de l'intégrer dans les activités banales du quotidien, des gestes mécaniques, comme jouer aux cartes, faire la cuisine. La consolation nous renvoie à l'enfance, à notre besoin d'être aimé et considéré. La consolation est une des plus belles preuves d'amour qui soit. Pour qu'elle aille mieux, Sissy Baxter ne va pas hésiter à mentir à Fran. Il lui annonce que Monsieur Sheldrake, l'homme qui l'a amenée au désespoir, s'inquiète pour elle, alors que c'est faux. Sissy Baxter endosse très bien le rôle du consolateur. En ce sens qu'il reconnaît la douleur de Fran, il ne la nie pas, il y est sensible. Mais grâce à son écoute et à son humilité, il va essayer de proposer une parole, un geste, qui va déplacer, réorienter la représentation mentale de Fran. Et ce geste, pour moi, c'est la partie de cartes.
You play gin rummy.
I'm not very good at it.
I am. Let me get the cards.
You don't have to entertain me, Mr. Baxter.
There's nothing I'd like better. No togetherness.
En se concentrant sur sa partie, Fran est toujours malheureuse. La cause de son mal-être n'a pas disparu. Mais on comprend qu'une transition vers un après est possible. On voit dans ce film l'immense pouvoir de la consolation. La consolation reconnaît que quelque chose a disparu, que cette chose ne reviendra pas et qu'on ne doit pas chercher à la retrouver. Et en nous révélant que la perte constitue ce que nous sommes, qu'elle fait partie de nous, la consolation ouvre le champ d'un avenir possible. Sissy Baxter, des chiffres et du cœur. Une des originalités du film est le personnage de Sissy Baxter, un petit employé de bureau qui affronte et décode la vie à travers les chiffres. Les statistiques font office de trait de sagesse pour lui. Le film s'ouvre d'ailleurs avec des chiffres déclamés en voix off.
On November 1st, 1959, the population of New York City was 8,042,783. If you laid all these people end to end, figuring an average height of 5 feet 6.5 inches, they would reach from Times Square to the outskirts of Karachi, Pakistan.
C'est avec les chiffres que Sissy Baxter appréhende la vie et on ne peut s'empêcher de soupçonner que c'est une manière pour lui de se rassurer. Les chiffres lui offrent peut-être quelques certitudes face à un monde qu'il ne comprend pas vraiment. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on pourrait croire que cette obsession pour les chiffres dénote un esprit froid et calculateur. Alors que c'est tout le contraire. Sissy Baxter est profondément sensible et généreux. Vis-à-vis de Fran, il peut emprunter le masque du séducteur froid et cynique, mais c'est pour mieux la protéger. Il est amoureux d'elle, et en même temps il est aussi désolé pour elle, car il sait que le directeur, M. Sheldrake, se joue d'elle. Il pourrait se donner le beau rôle et lui révéler les bassesses du directeur, mais il choisit de la préserver. Les espaces de Cissy Baxter. The Apartment est aussi remarquable dans son traitement des espaces. Il y a deux espaces principaux. L'espace de travail, avec le siège de la compagnie d'assurance Consolidated Life, et l'espace domestique, avec le fameux appartement de Cissy Baxter. La géographie du bureau. Dans les temps modernes, Chaplin avait brillamment mis en image l'usine. Dans The Apartment, Wyder fait de même, avec le travail administratif. Dans ce film, nous plongeons dans la vie de bureau des années 50 et 60. On a un cadre magnifique, avec un décor aux profondeurs qui montre une répétition, presque à l'infini, de bureaux à la géométrie parfaite. La masse des employés qui vient et part à heure fixe donne le sentiment d'observer des hamsters. Mais derrière cette masse aveugle, des codes stricts régissent la géographie de bureau. D'abord, plus on est haut dans la hiérarchie, plus on est haut dans les étages et plus on bénéficie de privilèges exclusifs, comme accéder aux toilettes ou à la cantine réservée aux cadres. On voit qu'à la discrimination s'ajoutent le sexisme et la prédation dans cette vie de bureau des années 50 et 60. Les cadres, qui sont toujours des hommes, vont littéralement considérer leurs collègues femmes comme des proies sexuelles potentielles. Des femmes qui occupent toujours des positions subalternes, secrétaires, filles du téléphone, filles de l'ascenseur. La géographie du chez-soi. Le domicile de Cissy Baxter représente une autre géographie clé. L'appartement est d'ailleurs le déclencheur de l'histoire et donne son titre au film. Ce logement est très recherché par les supérieurs de Cissy Baxter car il est bien situé, discret et cosy. Cosy est d'ailleurs un terme qui revient souvent dans la bouche des usagers de cette garçonnière. C'est en quelque sorte un appartement schizophrène avec deux usages antinomiques. Pour Cissy Baxter, c'est l'espace de la solitude et de la banalité. Ses principales activités, c'est y chauffer ses plats préparés, regarder la télévision et dormir. Pour les usagers, c'est le lieu de la débauche, où on écoute la musique à fond et où l'alcool coule à flot. Mais l'arrivée de Fran dans l'appartement va chambouler ce schéma routinier. La valeur du MacGuffin. Un autre aspect majeur du film est ce que j'appelle les objets magiques. Et cela rappelle d'autres grands cinéastes qui en étaient friands, comme Lubitsch, encore lui, ou Hitchcock. D'ailleurs, ce que moi j'appelle objet magique, Hitchcock appelait ça MacGuffin. Les MacGuffin sont souvent des objets, mais pas toujours, qui ont une utilité précise. Ils sont là pour révéler la vérité, faire avancer l'intrigue sans qu'on ait besoin d'une longue explication. Dans The Apartment, c'est le poudrier de Fran qui joue le rôle de MacGuffin.
The young lady, whoever she may be, it was on my couch when I got back last night.
Oh, yeah, thanks.
It was broken when I found it.
Mais il n'y a pas que les MacGuffin. Il y a aussi ce principe qui est la marque de tous les grands cinéastes, celle du show it, don't tell, montrer plutôt que de dire. Par exemple, quand Cissy Baxter nettoie l'appartement, on comprend, sans qu'on nous dise quoi que ce soit, ce qui s'y passe quand il n'est pas là. On peut aussi noter que dans le film, le mot suicide n'est jamais prononcé. Le show it, don't tell est un principe basé sur la confiance dans l'intelligence du spectateur et qui place le pouvoir des images au-dessus de celui des mots. Être un mensch. J'aimerais conclure cet épisode en évoquant la dernière réplique du film. On sait que pour Billy Wilder, la dernière réplique est essentielle. Pour le film Some Like It Hot, lui et I.A.L. Diamond se sont cassés la tête pendant des jours pour trouver cette fameuse réplique « Nobody's perfect ». Pour moi, celle de The Apartment est encore meilleure. Elle ramasse toute la philosophie du film. Elle nous dit qu'au lieu de faire de grands discours et de tomber dans la facilité sentimentale, il est plus important d'être lucide sur nous-mêmes. Cela veut dire comprendre que nous sommes constitués de nos pertes, mais aussi de nos lâchetés et de nos mesquineries. Cela fait partie de notre humanité. Nous passons continuellement des marchés pas très honorables avec nous-mêmes. Nous nous donnons souvent un rôle plus attrayant comparé à ce que nous sommes vraiment. Mais Wyder ne regarde pas l'humanité avec mépris. Il la regarde avec clairvoyance et nous dit aussi qu'il est possible parfois de se montrer intègre, d'être un mensch.
A nebbish like you.
Why don't you grow up, Baxter?
Be a mensch.
Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous. Si vous avez des idées de films que vous aimeriez que l'on aborde, dites-le moi en commentaire. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Emotion Side Story. D'ici là, n'oubliez pas de plonger dans le bain des émotions et du cinéma.